Oui, Majesté, mais on a un roi, nous, hein, qui est le roi des rois, le Seigneur des rois de la terre. Et son règne est un règne éternel. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité des morts. Et ce matin, on va parler de la résurrection des morts, de la résurrection de Jésus-Christ, parce que c'est le fondement. C'est le fondement de notre espérance. On a commencé une nouvelle série sur l'espérance du croyant. Qu'attends-tu de ton avenir? Et le verset thème de cette série-là est écrit ici, Romains 15, 13, que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on va parler ce matin? C'est l'espérance qui est fondée sur la résurrection par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, juste un petit résumé rapide là, de ce qu'on a vu à date, parce que je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus. On a vu que l'espérance, de quoi s'agit-il? L'espérance, on le définit comme telle. L'espérance est une ferme attente de quelque chose à venir dont l'accomplissement est certain. Wow! C'est pas j'espère qu'un jour, peut-être. C'est l'assurance. L'assurance d'un avenir meilleur qui est garantie de se concrétiser. Mais là, tu dis, c'est impossible, ça. Sur la terre, ça n'existe pas. Et oui, c'est vrai, c'est impossible d'imaginer une telle espérance sans Dieu. Hein? C'est pour ça, le verset qu'on a vu, j'aime tellement ce verset-là, parce que c'est Dieu qui est l'auteur de l'espérance. Parce que sans Dieu, oublie ça. Oublie ça, il n'y a personne sur terre qui peut avoir une telle espérance. Pourtant, c'est quoi l'importance de l'espérance pour les êtres humains? Bien, tu ne peux pas vivre sans espérance. Aucun humain ne peut vivre sans espérance. Mais c'est pour ça que les philosophes disent, bien, c'est une illusion, l'espérance, parce qu'il n'y a personne qui peut être certain du lendemain. Là, avec nos modèles, on peut prédire la météo pas mal précisément pour une semaine ou deux à l'avance, mais encore, hein? Puis les modèles scientifiques, là, nous prédisent que la Terre va se réchauffer, etc. Mais qu'est-ce que ça va produire comme catastrophe? Y a-t-il quelqu'un qui peut en être sûr? Non! Et puis, toi, ta vie, à toi, personnellement, encore bien moins. Fait qu'il n'y a personne sur Terre qui peut vivre sans espérance, mais il n'y a personne sur Terre qui peut avoir une réelle espérance certaine sans Dieu. C'est une évidence. Sans Dieu. C'est une folie, c'est une illusion. Donc, c'est Dieu qui est l'auteur de l'espérance. Charles de Gaulle a dit, la fin de l'espoir, c'est le commencement de la mort. Fait que les êtres humains se donnent des quasi-espérances, des choses qu'ils souhaitent. Des fois, ça arrive, tant mieux. Mais souvent, quand ça arrive, on est déçu. Puis là, ben, quand ça arrive, après, ça faut que tu te crées une autre attente. Faut que tu crées une autre attente, hein? Une autre carotte, comme ma femme dit. Ça me prend une carotte au bout, là. La carotte qui fait courir le lapin, hein? Ma prière, c'est que le Saint-Esprit fasse un miracle dans ton cœur et le mien pour nous convaincre. C'est une œuvre du Saint-Esprit, on l'a vu dans le verset, là. Pour nous convaincre de la réalité, de la beauté fantastique de l'espérance que Dieu nous donne qui est à venir. Et il y a plusieurs aspects à cette espérance-là, mais ma prière, c'est que Dieu fasse une œuvre dans ton cœur ce matin et dans le mien, par la puissance de sa parole. Paul, il dit dans Éphésiens 1, 9, c'est la prière de Paul, « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation dans sa connaissance. » Pour connaître Dieu, là, c'est impossible que tu arrives par tes propres moyens. Ça prend une révélation de Dieu par l'Esprit Saint. Amen. Et pour que vous connaissiez, afin qu'il illumine l'esprit, votre esprit de votre intelligence, que vous compreniez quelle est l'espérance à laquelle vous avez été appelés, ou quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel, on voit dans la version Louis II. Quelle est l'espérance? Dieu t'a appelé, bien à ça, là, il est attaché une espérance certaine. Et je prie, Paul, il priait pour ça, je le prie, moi, depuis des années pour moi-même, et je le prie pour vous aussi, frères et sœurs. Fait que tout ce qu'on a vu la semaine passée, c'est un élément, l'espérance d'un corps ressuscité et transformé. On a vu ça la semaine passée. Mais ce matin, c'est comme si on va prendre un pas de recul sur la construction d'une maison, puis on va juste prendre un pas de recul pour regarder la fondation, le fondement, sur quoi repose tout ça. Puis qu'est-ce qui est sous cette espérance-là? Tout est basé sur la résurrection de Jésus-Christ. Sans résurrection de Christ, pas d'espérance. C'est aussi simple que ça. La résurrection de Christ, le fondement de notre espérance. C'est le titre du message ce matin. La résurrection de Christ, le fondement de notre espérance. Puis, je vous invite à tourner avec moi dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, qui va être notre passage clé ce matin. Pardon. Alors, tournez avec moi dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, verset 1. Pardon. Mes frères, je lis dans la version sommaire, OK? Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue, et à laquelle vous demeurez attachés, c'est par elle que vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance, ou avant tout, ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est enterré. Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12 apôtres. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme à celui qui suis venu après coup. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Christ. Ce que je suis à présent, c'est la grâce de Dieu que je le dois, et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que les autres apôtres, non pas moi certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons, et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns d'entre vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est vaine ou sans objet. Il n'y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme des faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts, mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis au Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. On va s'arrêter là pour la suite. Prions. Père Céleste, merci encore une fois, Père, pour le privilège d'être réunis ce matin entre frères et sœurs dans ta présence glorieuse. Et Seigneur, comme ta parole dit, l'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Oui, Père, on veut faire silence ce matin devant toi. Et entendre ta voix seule qui nous parle. Viens parler à nos cœurs par tes Écritures, par le Saint-Esprit. Convainc nos cœurs, Seigneur, de ces vérités tellement essentielles, tellement importantes Transforme-nous par la puissance de l'Évangile. Pour la gloire de Jésus. Amen. Fait que la résurrection de Christ, le fondement de notre espérance. Et ici, la phrase sommaire du message ce matin, notre espérance est fondée sur la résurrection de Christ, cette vérité cruciale de l'Évangile qu'il faut croire pour qu'elle transforme nos vies. Donc, le message ce matin va comporter ces éléments suivants-là. Premièrement, la centralité de la résurrection à la bonne nouvelle. Deuxièmement, les preuves de la résurrection. Troisièmement, la portée de la résurrection. Et tout cela se trouve dans le texte. Donc, premièrement, la centralité de la résurrection à la bonne nouvelle. Paul dit qu'il leur a annoncé la bonne nouvelle qui inclut trois points. Christ est mort pour nos péchés, Christ a été enterré et Christ est ressuscité selon les Écritures. Ces trois points-là sont essentiels et Paul dit dans ce passage qu'il a reçu cet évangile, hein? Il l'a transmis tel qu'il l'a reçu. Et comment est-ce qu'il l'a reçu? Il l'a reçu sur la route de Damas. Dans Galates, il dit, je ne l'ai pas reçu d'aucun homme. Il dit, je l'ai reçu directement du Christ ressuscité. Et il dit, je vous l'ai transmis intégralement comme je l'ai reçu. Et comme une chose de première importance, dans vos Bibles, Louis II, c'est marqué, je vous ai enseigné tout d'abord, qui peut vous faire penser que c'est peut-être la première chose qu'il vous a enseigné. Mais ce n'est pas ça l'expression tout d'abord, apparemment dans le grec, ça veut dire de la première importance. Ce n'est pas la première chose en temps, mais la première chose en importance. La chose la plus importante que je vous ai transmise, là, c'est l'Évangile. C'est le fondement. Et ça comporte ces trois points-là. Christ est mort pour nos péchés, il a été enterré et il est ressuscité le troisième jour. Et tout cela, il dit, est conforme aux prophéties des Écritures de l'Ancien Testament. Ce sont des éléments qui avaient été prophétisés et qui n'ont pas été inventés de toutes pièces par les adeptes de Jésus. C'était prédit par les prophètes de l'Ancien Testament. Alors que Paul se retrouve dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, dans Actes 13, 32 à 38, si vous voulez suivre, il dit ceci. Actes 13, 32 à 38, il est avec Barnabas à Antioche de Pisidie, premier voyage de Paul et Barnabas. Paul prêche et dit, « Et nous sommes venus vous annoncer cette bonne nouvelle, ce que Dieu avait promis à nos ancêtres, il a pleinement accompli pour nous, qui sommes leurs descendants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils aujourd'hui, je fais de toi mon fils héritier. » Donc, Paul cite le psaume 2, l'expression « Tu es mon fils aujourd'hui, je te fais mon enfant ». Quand est-ce que à quel événement que ça rapporte? Ça rapporte à la résurrection. Ça ne rapporte pas à la naissance de Christ. Christ n'est pas devenu le fils à la naissance, dans le sens que Jésus a toujours été le fils éternel de Dieu, on s'entend. Mais ici, Paul applique l'expression « aujourd'hui, je t'ai engendré » à la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est à partir du moment que Christ est ressuscité qu'il peut maintenant avoir le droit de s'asseoir sur le trône de David, son père, parce qu'il a vaincu la mort et le péché. Cette expression-là, « aujourd'hui, je t'ai engendré » fait référence à une expression de héritier, de fils héritier. « Je fais de toi mon fils héritier aujourd'hui, c'est toi qui vas s'asseoir sur mon trône. Hein? » Le roi Charles, on savait. C'était qui d'entre les trois fils et la fille de reine Élisabeth qui allait être, n'avait pas à désigner, c'est déjà établi. Mais dans les anciens temps, des fois, le roi attendait, comme on a l'exemple de David, hein, jusqu'à... Tout avant sa mort, là. C'est qui va régner, là? Ben, c'est qui? Ça a été Salomon. Mais ça n'aurait pas dû être Salomon, c'était pas lui le premier. Hein? C'est Salomon. Et c'est Salomon qui devient le fils de David. Le fils dans le sens héritier du trône. Okay? C'est dans ce sens-là que dans le psaume 2, Dieu dit, « Aujourd'hui, je t'ai engendré. » Et ça rapporte à la résurrection. C'est donc suite à sa résurrection que Dieu établit Jésus comme son fils héritier. Il ne pouvait pas le nommer héritier avant, puisqu'il fallait qu'il soit vainqueur du péché et de la mort. Par sa résurrection, Christ maintenant peut régner éternellement sur toute chose. Donc, c'est une expression qui veut dire « mon fils qui héritera de mon trône ». Paul continue dans son adresse aux Juifs d'Antioche. « Dieu avait annoncé celui qui ne devait pas retourner à la pourriture. C'est ce qu'il avait dit en ces termes, « Je vous accorderai les bénédictions saintes et sûres que j'avais promises à David. » OK, là, on dit, ouais, c'est quoi qu'il veut dire là? Bien, il parle de l'alliance que Dieu a faite à David. Qu'est-ce que Dieu a dit à David, très, très, très sommairement? C'est que son règne durerait éternellement. Jamais il va manquer d'un héritier sur son trône. Bon, mais qu'est-ce qui est arrivé? Ça a flanché. Ça a flanché à Babylone. À la déportation de Babylone, plus d'héritier sur le trône de David. C'est terminé. Et depuis tout ce temps-là, qu'est-ce qui est advenu de cette alliance-là de Dieu avec David? C'est tombé à l'eau? Non, parce que ça s'applique à Jésus. Dieu avait promis que la dynastie de David n'aurait point de fin. Mais d'un point de vue humain, c'est éteint. La dynastie s'est éteinte. Comment Dieu allait-il tenir sa promesse envers David et le peuple juif? En ressuscitant Christ d'entre les morts et que lui maintenant règne éternellement sur le trône de son père David. Amen. C'est ce que Paul dit. Dieu a promis dans les Écritures la résurrection pour accomplir, pour qu'un fils ait une vie, un règne éternel. Paul poursuit dans son sermon. Dans un autre passage, il est dit encore, « Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Dans le psaume 16, hein? « Tu lui feras voir les sentiers de la vie. Auprès de toi, il y a des délices éternels. » Dans le psaume 16, 10. Pourtant, David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, est mort et a été enterré aux côtés de ses ancêtres. Il a donc connu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Sachez-le donc, mes frères, c'est grâce à lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Donc, c'est cet évangile-là que Paul prêchait, qui incluait la vérité de la résurrection comme point central, la centralité de la résurrection à la bonne nouvelle. Et on a ça ici du verset 1 au verset 4. C'est donc cet évangile-là, l'évangile de la résurrection qui a été prédite par les prophètes et les saintes écritures dans l'Ancien Testament. Sans résurrection, la bonne nouvelle ne l'est simplement pas de bonne nouvelle. Il n'y a pas de bonne nouvelle sans la résurrection de Jésus-Christ. C'est un point important, c'est un point crucial. Et Paul dit, votre salut, là, en va de ce point-là. Si vous ne retenez pas l'Évangile dans la façon que je vous l'ai annoncé, c'est-à-dire incluant la résurrection de Jésus-Christ, vous n'êtes pas sauvés. Vous ne pouvez pas être sauvés. On va revenir là-dessus. Mais pourquoi Paul adresse-t-il cette question? Bien, évidemment, c'est parce qu'il y avait des gens qui refusaient de croire à la résurrection en général. Qui étaient ces gens? Bien, on ne sait pas vraiment. Est-ce que c'était des Sadducéens? Hein? On sait que la partie des Sadducéens, des Juifs, là, ils ne croyaient pas à la résurrection. Les Pharisiens, oui, mais Sadducéens. Est-ce qu'il y avait des chrétiens Sadducéens maintenant, mais qui disaient, bien là, on croit que Jésus, le Messie, oui, mais on ne croit pas. Peut-être, on ne sait pas. Est-ce que c'était des Grecs? Peut-être encore plus des Grecs. Pourquoi? Parce que Corinthe, c'était une ville grecque, entourée de la philosophie et la culture grecque. Et qu'est-ce que les Grecs avaient comme philosophie? Bien, c'était fondé sur le rationnel, sur le raisonnement humain. Les croyants à Corinthe vivaient au milieu d'une société de culture grecque. Et dans cette société, comme la nôtre, parce que la nôtre, notre société occidentale est fondée sur la société grecque, vous savez. De façon philosophique, là, c'est la même philosophie. C'est le rationnel. Et quand Paul est allé prêcher l'Évangile à Athènes, tout allait bien jusqu'à temps qu'il mentionne que Dieu avait ressuscité des morts Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les gens ont commencé à se moquer. Eh bien, nous vivons dans une société occidentale, humaniste, centrée sur l'homme et son raisonnement, qui nie l'existence de Dieu et dans laquelle toute référence à une action miraculeuse est inadmissible. Pas vrai? Est-ce possible de vivre, de nager dans ces eaux sans en être influencé plus qu'on ne le pense ou qu'on ne l'ose peut-être nous l'admettre? Est-ce possible qu'on en vienne au point influencé par cette philosophie-là matérialiste, rationaliste, à ne plus oser croire que du bout des lèvres à la résurrection de Jésus-Christ? Lors de sa défense devant le gouverneur romain Festus et le roi Agrippa, dans Actes 26, Paul n'a pas honte de proclamer la bonne nouvelle authentique au risque de se faire rire de lui. Paul dit, il commence, il dit, « Maintenant, il dit, je suis traduit en justice, c'est à cause de mon espérance dans la promesse de Dieu à nos ancêtres. Nos 12 tribus espèrent voir son accomplissement en rendant leur culte à Dieu nuit et jour. » Oui, c'est à cause de cette espérance que je suis mis en accusation. Attends un petit peu, Paul. Où est-ce que tu prends ça? Attends, pause. On pose la vidéo, là. OK. Paul est accusé. Il est devant le gouvernement romain. Puis, il parle de la résurrection, de l'espérance. Puis, il dit, c'est à cause de ça. Mais c'est quoi le rapport? Bien, c'est clair dans l'esprit de Paul que l'Évangile est fondé sur la résurrection de Jésus-Christ et que sans la résurrection, il n'y a pas de bonne nouvelle. Et c'est par rapport à la bonne nouvelle qu'il prêchait qui était traduit en justice, là. Voyez-vous? C'est pas clair tout de suite, là. Quand on l'écoute Paul parler, voyons, c'est quoi, Paul? Pourquoi tu parles de la résurrection, de l'espérance que Dieu a promis aux ancêtres? C'est parce que pour Paul, c'est clair que la résurrection est partie intégrante, elle est partie centrale de l'Évangile. Sans la résurrection, il n'y en a pas d'Évangile. Fait qu'il dit, c'est pour... OK, on repart la vidéo, là, OK? Il dit, « Oui, c'est à cause de cette espérance que je suis mis en accusation par des Juifs au roi Agrippa. Et pourtant, trouvez-vous incroyable que Dieu puisse ressusciter les morts? » J'imagine la scène, là, quand Paul parle, j'imagine qu'Agrippa, la face qu'il a dû faire, puis Festus, le gouverneur romain qui est à côté, qui écoute Paul parler, là, pour que Paul dise ça, et pourtant, trouvez-vous ça incroyable? Puis probablement qu'il y a eu une réaction, là. Il dit, pourtant, trouvez-vous incroyable que Dieu puisse ressusciter des morts? Et il termine son discours comme ceci, « Ce que je déclare, ce n'est rien d'autre que les événements dont les prophètes et Moïse ont annoncé l'accomplissement. C'est-à-dire que le Christ souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter des morts pour annoncer la lumière du salut non seulement au peuple juif, mais aux païens. Ce à quoi Festus s'est écrié, « Tu es fou! » Tu es fou, Paul! Tu es fou. C'est la réaction à laquelle on peut s'attendre dans notre société. Humaniste, rationaliste, qui n'admet rien. Albert Einstein a dit, je sais, je l'ai déjà cité, mais je trouve ça tellement merveilleux comme citation. Albert Einstein a dit, il y a deux façons de voir la vie. Soit que rien n'est un miracle, soit que tout est un miracle. Et lui, il épousait la deuxième position. Il était bien placé pour le voir, n'est-ce pas? Quand tu considères les rois, les lois immuables et invisibles qui régissent la nature entière, et il y en a plusieurs. J'en ai étudié plusieurs, puis certains d'entre vous aussi, vous n'avez étudié plusieurs de ces lois-là de la physique. Les lois immuables, ça veut dire ça ne change pas, et invisibles, qui régissent, qui contrôlent tout ce qui se passe dans l'univers. Tout ce qui se passe dans l'univers sont régis par des lois physiques. E égale MC au carré. Il était bien placé pour le voir, lui. C'est un miracle. C'est fou. C'est impossible. Tout est un miracle. La vie est un miracle. Pourquoi la résurrection ne serait pas un miracle? Tu sais, la vie, un enfant qui vient au monde, c'est un miracle. Bon, c'est un miracle. Ah non, mais Dieu ne peut pas ressusciter un mort. Alors, Paul, il dit ici, dans, on revient à 1 Corinthiens, si vous êtes allé dans Actes, revenez avec moi dans 1 Corinthiens. Verset 2, c'est par elle, la bonne nouvelle, que vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombé, enterré, ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. On est rendu trop loin, là. As-tu cru à l'Évangile authentique? Vraiment? Ou bien est-ce que tu crois à un Évangile tronqué? Un Évangile tronqué de la résurrection qui produit ce que Paul dit, ce que Paul appelle dans 1 Timothée 3:5, une religion, une pratique religieuse qui a l'apparence de la piété, mais qui en nie la puissance, qui nie ce qui en fait la force. Paul dit à Timothée, il dit, éloigne-toi de ces gens-là. Ils ont cru à une fausse évangile. Si on laisse glisser la foi en la résurrection du Christ, on va se retrouver sur le chemin qu'ont emprunté des chrétiens, entre guillemets, libéraux, qui ont un respect, certes, pour l'enseignement d'un grand homme, Jésus, mais pour qui l'Évangile n'a aucune puissance transformatrice. Plus que de suivre une philosophie quelconque. Et j'en ai vu de ces gens-là. J'en ai connu de ces gens-là. Les églises libéraux, il y en a plein. Pas au Québec tant que ça, là, mais partout dans le monde. Des gens qui s'identifient comme chrétiens, mais qui croient à aucun des miracles et qui ont cru, si on veut, à un évangile tronqué. As-tu cru à l'évangile authentique? Et, deuxième question, est-ce que tu transmets l'évangile authentique? Ça, c'est une bonne question. Ce qui inclut la résurrection, la force, la puissance de l'Évangile. Parce que des fois, on peut être porté à ne pas vouloir trop parler de la résurrection parce que on va avoir la même réaction que Paul devant Festus ou devant les gens d'Athènes. On peut se faire rire de soi. Mais si on n'annonce pas l'Évangile authentique, on strippe, pour utiliser un bon mot québécois, on strippe l'Évangile de sa puissance. Et la bonne nouvelle n'en est plus une. C'est quoi l'espérance que ça peut donner à un homme qui a vécu, qui a enseigné des choses, puis qui est mort? Il n'y a aucune force là-dedans. Il n'y a aucune puissance là-dedans. Alors, le premier point, c'est la centralité de la résurrection à la bonne nouvelle. Ensuite, au verset 5 et 8 de notre passage, 1 Corinthiens 15, on voit les preuves. Verset 5, il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, à Céphas, qui est Pierre. Hein? Ensuite, à plus de 500 frères, probablement lors de l'ascension. Hein? Donc, on voit ça. Oups, je suis trop loin dans mon vidéo, excusez. Et ensuite, à Jacques. Bon, il y a toute une discussion entourant ça. Est-ce que c'est Jacques le frère? C'est Jacques, bon, c'est Jacques, fils de Zébédée? Ben non, je pense que c'est probablement Jacques le frère, mais peu importe. Puis à tous les apôtres. Et là encore, il y a une autre discussion, c'est qui veut dire, bon, ça n'a pas d'importance. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à celui qui soit venu après coup, comme un avorton ou comme quelqu'un qui sort tardivement du ventre. Qui est à moitié mort parce qu'il est resté trop longtemps. Donc, ces preuves-là, et Paul mentionne, il mentionne que certaines apparitions de Jésus-Christ, il ne mentionne pas toutes, il y en a plein d'autres aussi, là. Et ensuite, il va dire, bien, à moi qui suis le moins des apôtres, mais c'est comme une parenthèse qui ouvre, là, de sa vie. Mais qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est que sa propre vie a été transformée par la rencontre avec la résurrection, avec le Christ ressuscité. Bon. La centralité de la résurrection, les preuves de la résurrection, et on arrive à la portée de la résurrection, c'est-à-dire l'importance de la résurrection qu'on va voir ici à partir du verset 12. Et la première conséquence, c'est Christ, si Christ n'est pas ressuscité, qu'est-ce qu'il va dire? Premièrement, verset 12, notre prédication est vaine. C'est ça la question qu'on doit se poser, frères et sœurs. Est-ce que l'évangile que je présente, là, est-ce qu'elle est vaine? Est-ce qu'elle est dénuée de tout contenu, dans le fond? Parce que Christ, si Christ n'est pas ressuscité, bien, l'Évangile n'a plus de contenu. C'est comme une boîte là, que tu transportes, puis tout d'un coup, ça lâche. Tu sais? Le fond lâche. Tu n'as plus rien dans ta boîte. C'est comme n'importe quelle autre philosophie. Et il dit, en plus, votre foi est vaine, ça veut dire sans objet, vous croyez à quelque chose de vide, d'irréel. Pourquoi? Pourquoi la résurrection est tellement importante à l'Évangile, parce que la résurrection prouve que Jésus est réellement le Fils de Dieu. La résurrection prouve qu'il est le Messie, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Romains 1:3, Paul va dire, « Elle, la bonne nouvelle, parle de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui, dans son humanité, descend de David, et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. » Voyez le parallèle avec Psaume 2, là, hein? Aujourd'hui, je t'ai engendré, là, voyez-vous? Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance lors de sa résurrection d'entre les morts par le Saint-Esprit. C'est là que tout se joue. C'est là que tout se prouve, que tout s'avère vrai sur les déclarations de Jésus, sur qui il est, là. Sans ça, c'est des paroles en l'air. S'il n'est pas ressuscité, alors aucune de ces choses sont vraies de lui. Le sacrifice qu'il a prétendu offrir pour nos péchés est vain s'il n'est pas ressuscité. Il serait donc resté mort, car pécheur comme nous. Mais s'il est réellement ressuscité, cela implique que la mort n'avait aucun droit de le retenir, car la mort survient comme conséquence directe du péché, et donc qu'il est vraiment mort pour tes péchés et les miens, et que Dieu a pu accepter ce sacrifice, nous pardonner, nous déclarer juste par conséquent. Si Christ n'est pas ressuscité, alors aucune de ces choses-là sont vraies. On a vu dernièrement, on en parlait justement ce matin, des inondations. Les inondations dans la région de Baie-Saint-Paul, plusieurs régions du Québec sont aux prises avec ça. Imaginez, là, vous êtes aux prises avec une inondation dans votre secteur, puis là, vous êtes isolé, bloqué, coincé sur une île. Avec tout un groupe de personnes. Tu es sur une île entourée de rivières des deux côtés. L'eau monte. et il n'y a aucune façon de sortir. Soudain, un des gars s'avance et il dit, « Moi, je suis capable, moi, de vous transporter à la nage sur mon dos jusqu'à l'autre rive en toute sécurité. » Ah ouais? OK. Pour vous prouver, il plonge dans l'eau et disparaît. Ah. Mais 3 minutes plus tard, il réapparaît. Et dans le temps de dire, il est rendu à l'autre rive. Et il revient. Mais s'il n'était jamais réapparu. Hein? Mais là, il revient. Mais là, vous demeurez quand même sceptique, c'est bien beau pour lui, là. Mais il dit, embarquez, je vous transporte. Alors, il dit, pour vous prouver ça, ben, je vais m'attacher une roche de 150 kilos sur le dos. Et il replonge à l'eau. Et il disparaît encore une fois. Et là, vous êtes sûr là, que c'est terminé. Mais non! 3 minutes plus tard, il réapparaît, puis dans le temps de dire, il est rendu à l'autre rive. Puis il revient. C'est comme ça la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ prouve qu'il est capable de te transporter, toi, sur l'autre rive. Il a porté sur lui tous les péchés de tous les temps, de tout. Mais c'est efficace juste si tu crois en lui. Son sacrifice demeurera efficace pour toi seulement si tu embarques sur son dos. Mais si Christ était resté en terre, ben là, on dirait, on se croisera les bras, puis on serait là autour de son tombeau, puis pauvre lui. Hein? Il se prenait pour notre sauveur, puis regarde, il n'a même pas été capable de sauver sa propre vie. La résurrection de Christ prouve qu'il n'avait aucun péché qui le coulait, entre guillemets, et de plus, il a porté tout le poids des péchés de tous les hommes sur son dos, et il a quand même refait surface. Qu'est-ce qu'il dit encore, Paul, dans notre passage ici? Verset 15. De plus, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme des faux témoins de la gloire de Dieu. Tous les apôtres, incluant Paul, seraient des fichus de menteurs. Des menteurs. Alors, vous voyez comment c'est incongru de croire à une certaine forme de christianisme sans la résurrection? Tu ne peux pas. Parce que Paul dit, attends, si tu ne crois pas à la résurrection, tous les apôtres, moi inclus, là, on est une gang de menteurs. On est une gang de menteurs. Parce que nous, là, on a prêché l'Évangile que Christ est mort, qui a été enterré, puis qui est ressuscité le troisième jour. Fait que, crois à quelque chose, mais crois pas à un Évangile qui nie l'existence de la résurrection. Tu peux pas. Tout se défait. Tout s'écroule. Le château de cartes s'écroule. Les 12 apôtres s'écroulent. Jésus s'écroule. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, ça s'écroule. Est-ce que ceux qui prêchent un évangile, entre guillemets, sans la résurrection, sont prêts à accepter ça? C'est ce que ça veut dire. Il poursuit, vous êtes toujours dans vos péchés. Votre foi est vaine. Également, tous ceux qui ont cru en lui, qui sont morts, sont perdus. Évidemment, parce qu'ils ont cru en vain. Ils ont cru dans un mensonge. Et nous nous sommes donné une fausse espérance. Nous avons cru à une supercherie, comme on a vu la semaine passée, ou comme on a vu tantôt aussi. Une espèce d'espérance qui n'existe pas, qu'on a créée de toutes pièces. Et en plus, au verset, quand il dit « nous sommes à plaindre », verset 19, « si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » En plus de croire dans une espérance qui est faussée, on s'est privé des plaisirs de la vie que les autres prennent pour acquis, hein? on s'est privé de ces plaisirs-là pour rien, en se donnant une cause erronée, Des espèces d'illuminés qui se targuent de croire un mensonge, qui ne réalisent pas qu'ils sont misérables, car aucun plaisir dans cette vie, ni rien après. c'est pitoyable. Au moins, ceux-là qui ne croient pas, ben, ils se permettent plein de plaisir dans cette vie. D'autres effets négatifs, si Christ n'est pas ressuscité, ben là, on saute plus loin un petit peu au verset 32. Au verset 32. Si la lutte que j'ai soutenue à Éphèse, véritable combat contre les bêtes fauves, n'a été inspirée que par des motifs purement humains, à quoi cela m'a-t-il servi? Souffrir en vain. Souffrir pour une cause qui n'a pas de fond. Souffrir en vain. Et passer à côté des plaisirs de la vie, parce qu'il dit, si les morts ne ressuscitent pas, alors, comme il est dit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais voilà une autre conséquence, par contre, comme on a vu la semaine passée, de se donner à cette philosophie de profiter, d'essayer de profiter de tous les plaisirs de la vie maintenant. Ça amène à un désillusionnement, ça nous fait tomber dans des excès, dans le désespoir, dans le désir de mourir, comme on a vu la semaine passée. Je vais arrêter là, on va prendre une pause, puis on va juste revenir pour la fin, parce qu'il reste les effets positifs du fait qu'il est réellement ressuscité. On a vu tous les effets négatifs, toutes les conséquences de croire que Christ n'est pas ressuscité. Puis on va prendre une petite pause, puis je reviens après pour la conclusion. OK? On s'est laissé tantôt sur les effets négatifs. Si Christ n'est pas ressuscité, on n'avait pas tout à fait terminé, je me rends compte, là. C'est que, on a vu, Paul dit au verset 32, qu'on a souffert en rien si Christ n'est pas ressuscité, pour présenter l'Évangile, puis recevoir plein de rejets, puis d'abus. En plus, tu passes à côté des plaisirs de la vie. Mais, un autre effet négatif, c'est que si Christ n'est pas ressuscité, puis si on ne croit pas à sa résurrection vraiment, entièrement, du plus profond de notre cœur, bien, qu'est-ce qui va arriver? On le voit à la fin du passage. C'est qu'il dit aux Corinthiens, au verset 33, il dit, juste après avoir dit « mangeons et buvons, car demain nous mourrons », il dit « attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent le bonnes mœurs. Revenez une fois pour toutes à votre bon sens et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Fait que c'est comme on disait tantôt, les Corinthiens, les croyants dans l'église de Corinthe, baignaient dans la société du temps, dans la pensée grecque. Ils étaient entourés de cette pensée-là, nous aussi on est entourés de cette pensée-là, qui nie tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui est miraculeux, tout ce qui est surnaturel, qui nie même l'existence de Dieu, et par le fait même qui nie la résurrection de Jésus-Christ. Et certains d'entre eux, ils s'étaient laissés influencer par la philosophie qui les entourait, et Paul dit, revenez à votre bon sens, parce que là, je vois que vous vous êtes laissés influencer. Puis je me demande, frères et sœurs, je me demande là, sincèrement, et ça c'est un des points principaux du message de ce matin, là, ok? Écoutez bien, là. Je me demande si moi-même, si nous-mêmes, on ne s'est pas laissé influencer par la pensée mondaine qui nous entoure, au point que nous avons adopté la même philosophie. Autrement dit, profitons de la vie au maximum. Profitons de la vie au maximum. C'est juste cette vie-là qui compte, dans le fond. C'est pas ça qu'on croit intellectuellement. Mais des fois, nos actions prouvent autrement. Et Paul, il s'adresse à nous à travers cette lettre-là aux Corinthiens aussi. Il s'adresse à toi et à moi. Il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Là vous êtes en train de déraper, là. Est-ce que c'est possible? Quand on délaisse la vérité de la résurrection, on ne veut pas trop en parler parce qu'on sait que les gens vont réagir, qu'ils vont dire, ben voyons donc, pourquoi tu crois à ces affaires-là, ces histoires-là? Ben quand on recule, là, qu'est-ce que ça fait dans ton cœur? Ça fait un compromis. Quand tu fais un compromis, ben là, tu te laisses influencer plutôt que d'influencer. Quand on n'est plus dans la mission d'apporter la vraie évangile, là, ben qu'est-ce qui arrive? C'est que là, on est plutôt dans ce que Paul dit, là, laissez-vous pas modeler par le monde. Hein? Dans 12.1. Romains 12.1. Oui. Ne vous laissez pas conformer par le monde. Et le mot, c'est vraiment modeler. C'est comme on prend de la plasticine, là. C'est modeler, tu fais ce que tu veux avec. Mais laissez-vous transformer, hein, par le renouvellement de votre intelligence. Et ça inclut, ça, la vérité fondamentale de la résurrection. Ça ne sera pas accepté. Oui, tu vas te faire rire de toi. Mais ça fait partie intégrante, c'est central à la bonne nouvelle, comme on a vu. Et si on délaisse ça, ben Paul il dit, vous êtes en train de déraper, puis revenez à votre bon sens spirituel. Revenez et ne péchez pas. Et il dit même, il y en a certains dans votre église là, qui ne connaissent même pas Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez commencé à prêcher un évangile tronqué pour ne pas offenser. Vous avez prêché un évangile tronqué, puis là, l'Église se trouve avec des gens dedans qui se disent chrétiens, qui s'identifient, mais qui ne connaissent même pas Dieu. Et il dit, tout ça, je le dis à votre honte. Fait qu'il faut qu'on s'interroge. Moi-même, là, je vous lance pas des pierres, là. Ça m'arrive des fois de dire, OK, je ne parlais pas trop de ces éléments-là parce que je vais me faire rire de moi. C'est sûr, c'est notre lutte. Mais pensons-y, si on fait ça, il n'y a plus aucune puissance dans notre évangile. Et là, on se laisse entraîner par le courant. On se laisse entraîner par le courant. Si Christ n'est pas ressuscité, le message qu'on prêche est en vain, Paul dit. C'est vain, c'est vide. Il n'y a aucune puissance transformatrice. Il n'y a aucune espérance dans un évangile tronqué de la résurrection de Jésus-Christ. Mais quels sont les effets positifs maintenant? Les effets, on va terminer sur une note positive. C'est toujours mieux dans un sermon. Effets positifs du fait qu'il est réellement... Regardez au verset 20, un de mes versets préférés dans toute la Bible. Là. Maintenant, mais Christ est vraiment ressuscité. Hein? C'est ça que vous avez dans vos versions? C'est quoi? Quelqu'un, s'il te plaît. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Toi, Richard, c'est quoi?
Verset 35?
Verset 20?
Ah, verset 20, OK. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts.
Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Moi, dans ma version, c'est « Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. » Et qu'est-ce que ça veut dire, tous les effets positifs de ça, qui découlent de ça? Bien, premièrement, c'est que la résurrection de Jésus-Christ nous ouvre la porte à nous, comme on a vu dans l'illustration du nageur tantôt, à tous ceux qui sont unis à lui, qui sont en lui, d'avoir aussi une résurrection, d'être aussi ressuscité. Amen! Si Christ n'est pas ressuscité, toi non plus, tu ne ressuscites pas. Si le gars ne traverse pas la nage avec 150 kilos sur le dos, il ne pourra pas te prendre non plus. C'est uni à Christ. Tu ne peux pas le faire toi-même. Tu ne peux pas traverser toi, tu le sais. Là. Mais lui, ce gars-là, s'il peut le faire, tu embarques sur son dos, tu es uni à lui, il va te transporter. C'est ça. Si Christ est ressuscité, ben ça ouvre la porte, puisqu'on est en Christ. Deuxièmement, c'est quand ça? C'est au moment de sa venue. On en parlait justement, Bernard et moi, avant-hier. Quand ça? C'est à sa venue. cette résurrection-là, au verset 23, s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, comme au moment où il viendra, ceux qui appartiennent ressusciteront à leur tour. Et, verset 24, autre effet positif, c'est que viendra la fin lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu, après avoir anéanti toute domination, toute autorité, toute puissance hostile. Il faut qu'il règne, verset 25. Fait que c'est la participation à un royaume, à un royaume éternel. Puis ça, on va voir ça dans les prochaines semaines. Qui fait une grosse partie de l'espérance du chrétien, c'est quoi? C'est de participer à un royaume éternel. Puis on va regarder c'est quoi ce royaume-là, c'est quoi les éléments dedans. On a vu un corps ressuscité, mais un autre élément très important, c'est le royaume, de participer au royaume. Finalement, un autre point, c'est comme au verset 27, car comme il est écrit, Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Verset 26, pardon. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, c'est ça. Un des effets positifs de la résurrection de Christ, c'est que ça nous libère de la crainte de la mort. Ici, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire une distinction. On peut avoir peur du processus de mourir. On peut avoir peur. Quand tu manques de souffle, là, tu te demandes comment ta vie va finir. Là, ou que tu souffres cruellement d'un cancer quelconque, là, ben, c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur du processus de mourir. Mais d'avoir peur de la mort elle-même, non. La mort elle-même, tu ne devrais plus avoir peur de mourir si tu es uni à Christ. Peur de la souffrance, oui, c'est correct. Mais encore là, le Christ est là pour nous soutenir. Jamais je ne vous abandonnerai, jamais je ne vous délaisserai. Mais c'est la peur de la mort. Paul dit, je ne me rappelle plus c'est quoi la référence, mais Paul dit quelque part que toute l'humanité est sous l'emprise de cette peur-là. Hein? Pas vrai? Christ est venu pour nous libérer de cette peur-là qui retient captive tous les êtres humains, qui retient captifs tous les êtres humains. Fait que, gloire à Dieu, plus besoin de craindre l'ennemi qui s'appelle la mort, car Christ l'a anéanti. Et finalement, ça nous donne le courage d'affronter jusqu'au danger de la mort. Parce que Paul dit à Éphèse, là, il a soutenu une lutte terrible. Il dit, je vous le dis, là, il dit, je fais face à la mort à tous les jours. Ben voyons donc, à tous les jours. Dans l'accomplissement du ministère de proclamer l'Évangile, là, Paul faisait face à la mort à tous les jours. Il pourrait mourir n'importe quand. Mais comment ça se fait qu'il continuait? C'est le courage que donne la résurrection. Quand tu n'as plus peur de rien, tu n'as plus peur de la mort. Vous vous rappelez, dans ses voyages missionnaires, à un moment donné, il se fait lapider dans une ville. Les gens laissent là Paul mort, il est à terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il se relève, il continue, il prêche dans l'autre ville. C'est fou! Tu dis, mon ami, t'as-tu perdu la raison, là? Mais non, c'est le courage que donne lorsqu'on a l'espérance de la vie éternelle. Et aussi, dans la suite du passage, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, l'espérance d'un corps ressuscité, transformé. À quoi ressemble ce corps? Bien, on l'a vu, incorruptible, glorieux, fort et spirituel. Fait que ça, on n'ira pas le voir parce qu'on l'a vu la semaine passée. Fait que finalement, notre espérance est fondée sur la résurrection de Jésus-Christ. Il fallait qu'on examine ce point-là. C'est une vérité fondamentale. Toute la série est basée sur la résurrection de Christ. Sans résurrection, il n'y a pas d'espérance. Cette vérité cruciale de l'Évangile, il faut la croire. Il faut l'intégrer pour qu'elle transforme non seulement nos vies, mais les vies de ceux à qui on prêche l'Évangile. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce passage merveilleux qui est plein de vérité. Et Seigneur, je veux te confesser que parfois je prêche un évangile tronqué. Souvent, on a parlé de tronquer l'évangile à l'autre bout, là, au niveau des péchés, de la repentance. Mais je m'aperçois aussi que on est susceptible de tronquer l'évangile au niveau de la résurrection parce qu'on a peur. Mais sans cette résurrection, notre évangile est vain. Alors Seigneur, convainc-nous par ton esprit, comme tu as convaincu Paul, que cette résurrection est le fondement de notre espérance et que la bonne nouvelle, elle est essentielle à cette bonne nouvelle. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de proclamer la vraie évangile authentique. Christ est mort. Christ est enterré. Christ est ressuscité. Que ton esprit transforme nos cœurs et nos pensées et nous préserve de cette génération pervertie et corrompue. Au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine, frères et sœurs.